Jean-Yves Le Gall, bonjour.
Bonjour.
2017 a été une année assez marquante pour le spatial français, notamment avec la mission de Thomas Pesquet. Est-ce que 2018 va avoir des missions qui pourraient susciter autant d'engouement ?
Autant d'engouement, je ne sais pas, mais des missions, oui. Et pour le CNES, il y a trois missions phares en 2018. D'abord, nous partons sur Mars le 5 mai avec la NASA InSight. Donc on va écouter battre le cœur de Mars et on va poser un sismomètre à la surface de Mars pour savoir si le cœur de Mars est solide ou liquide. Ensuite, un peu plus tard, le 25 septembre, notre mission phare de la coopération franco-chinoise CFOSAT, où un satellite va s'intéresser aux vagues et au vent. Et c'est la première fois qu'on fera une corrélation entre les vagues et le vent. Donc c'est extrêmement important pour comprendre les mouvements de l'océan, bien sûr en lien avec la lutte contre le changement climatique. Et puis la dernière mission de l'année, très importante pour la France et la communauté scientifique française, c'est BepiColombo, où l'Agence spatiale européenne et la JAXA au Japon se sont associés pour envoyer une sonde en orbite autour de Mercure, donc une mission qui va s'étendre sur 9 ans, 7 ans de voyage pour atteindre Mercure, et puis ensuite 2 ans en orbite, une mission extraordinaire. Donc vous voyez, on a aimé 2017, on va adorer 2018.
Vous mentionniez InSight, Mars pour vous c'est toujours l'objectif prioritaire ?
Mars est l'objectif prioritaire de toute la communauté scientifique qui s'intéresse à l'exobiologie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Mars a été habitable. Et donc, la vraie question, c'est de savoir si Mars a été habité. Et c'est un peu le Graal après lequel courent toutes les missions martiennes. Donc, en 2018, il y aura le lancement d'InSight. Et connaître la structure interne de Mars, c'est très important pour savoir justement pourquoi l'eau et l'atmosphère qui étaient sur Mars ont disparu. En 2020, il y aura 5 missions qui partiront vers Mars. Mars 2020, avec la NASA, où nous serons une fois encore, puisque on fournira la caméra Supercam. La deuxième mission dans laquelle nous sommes aussi, c'est ExoMars, bien sûr, projet de l'Agence spatiale européenne en coopération avec Roscosmos en Russie, où là aussi la communauté scientifique française fournit les instruments. Et puis il y aura trois autres missions. Une mission chinoise, que j'ai vue d'ailleurs lorsque j'étais en Chine la semaine dernière. Une mission indienne, la suite de Mangaliad, et puis, peut-être un peu surprenant, une mission des Émirats, la mission HOPE, qui ira se mettre en orbite autour de Mars. Donc vous voyez, on ne s'ennuie pas avec Mars.
À échéance plus lointaine, le fantasme, c'est l'exploration humaine de Mars. Le projet n'a pas pris un peu de plomb dans l'aile. On voit que les Américains plaident aujourd'hui plus pour un retour à la Lune. La Lune semble attirer de plus en plus.
Oui, la Lune attire de plus en plus, peut-être parce que c'est facile, c'est plus facile d'aller sur la Lune que d'aller sur Mars. Cela dit, bon, le projet d'exploration humaine de Mars, Journey to Mars, c'était quand même la décennie 2030. Il y avait des études et les études continuent. Pour la Lune, comme je l'ai dit il y a quelques jours, je vois passer des déclarations, je vois passer des tweets, mais je ne vois pas beaucoup passer de dollars.
On sait que les Chinois veulent aller vers Mars également. La Chine est un partenaire incontournable aujourd'hui pour une agence spatiale telle que le CNES ?
La Chine est un partenaire totalement incontournable parce que la Chine, naturellement, est un très grand pays. Nous avons des coopérations tous azimuts avec la Chine et il était normal que nous ayons des coopérations dans le domaine spatial. Et une fois encore, le CNES montre la voie puisque nous sommes quand même les premiers partenaires internationaux des Chinois avec CFOSAT qui est un satellite dont on parlera beaucoup parce que les données qu'il va fournir seront très précieuses pour mieux comprendre le mouvement de l'océan. Les Chinois ont répondu présent très très vite lorsque j'ai proposé de créer un observatoire spatial du climat et donc nous travaillons avec eux. Nous les verrons au mois de juin à Toulouse puisque la Chine sera l'invité d'honneur du Toulouse Space Show qui va rassembler l'ensemble de la communauté spatiale mondiale à Toulouse pour 3 jours. Et puis un peu plus tard, eh bien, nous aurons une autre mission avec la Chine, cette fois-ci d'astronomie, SVOM, que nous lancerons donc pour observer les sursauts gamma. Donc, vous voyez une coopération avec la Chine qui est déjà importante et qui a reçu, je crois, on peut le dire, un formidable coup d'accélérateur à l'occasion de la visite d'État du président de la République en Chine, puisqu'il a passé 3 heures sur le spatial, ce qui faisait à peu près le tiers de son temps passé à Pékin, ce qui est tout à fait impressionnant.
Cet observatoire spatial du climat, en quoi consiste-t-il ?
L'Observatoire spatial du climat a deux fonctions. La première, c'est être certain que tous les satellites qui vont observer le climat observeront les mêmes choses, donc une standardisation dans les données. Aujourd'hui, les satellites américains s'intéressent à la hauteur de la colonne de gaz carbonique, les satellites européens en concentration, donc on ne peut pas forcément comparer. Là, on va standardiser toutes les données qui seront étudiées, et puis ensuite, ces données seront en libre service pour qu'elles puissent circuler, et donc c'est vraiment absolument remarquable. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est que de plus en plus de pays rejoignent ce qui, au début, l'année dernière, était un concept. J'étais encore hier à Londres, au sommet franco-britannique. Nous avons signé un accord avec nos partenaires britanniques, puisqu'ils sont avec nous sur Microcarb, qui va observer les sources et les puits de gaz carbonique. Et nous avons signé un accord pour définir leur participation à l'Observatoire spatial du climat. Donc vraiment, je crois que c'est une affaire qui marche et qui marche bien.
Mais pourtant, il manque deux partenaires majeurs dans ce projet, la Russie et les États-Unis.
On ne peut pas dire qu'il manque. La Russie va nous rejoindre. Je vais bientôt en Russie. C'était des questions. Les Russes n'ont pas pu être présents à notre réunion parce qu'ils avaient quelques soucis techniques chez eux. Quant aux États-Unis, bon, la problématique est beaucoup plus vaste, mais là aussi, je ne me fais pas de soucis. Les États-Unis consacrent des efforts considérables à l'étude du climat, continueront à les consacrer, et donc tôt ou tard, ils feront partie de l'Observatoire.
L'exécutif américain semble pourtant plus se diriger vers une redéfinition des missions de la NASA, plus vers l'exploration, moins vers l'étude de la Terre. Le prochain administrateur de la NASA a eu des propos climato-sceptiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Ça m'inquiète modérément parce que nous sommes dans des enjeux de très long terme. Donc je crois qu'il y a parfois des gens qui s'enthousiasment, parfois des gens très enthousiastes sur le climat, parfois il y a des gens qui ont des doutes, mais la valeur moyenne est plutôt positive.
Cet observatoire pour le climat, quand est-ce qu'on pourra dire qu'il est effectivement lancé et qu'il donne ses fruits ?
L'objectif, c'est de faire des annonces à la mi-année, donc nous travaillons de façon très intense là-dessus.